France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ça commence comme ça, comme souvent d'ailleurs dans nos idées de téléphone sonne. Je suis à une soirée, je croise un copain que j'ai pas vu depuis longtemps. Comment ça va tes filles ? L'aînée ça va, la cadette, j'y comprends rien. Elle sait pas ce qu'elle veut, elle a commencé 1000 trucs sans les finir, je suis paumée. J'ai l'impression de devenir un vieux con. J'ai remis du champagne dans le verre de mon pote, mais nous y revoilà, le mystère de la génération Z. Alors entendons-nous, je comprends très bien qu'il puisse y avoir plusieurs générations Z quand on est d'un milieu modeste, qu'on n'a pas fait d'études, on a moins le luxe du choix quand il s'agit du travail. Mais enfin, il y a quand même quelques constantes qui sont peut-être des idées reçues ou pas, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Par exemple, la Gen Z veut moins travailler que ses aînés. La Gen Z est moins attachée à son entreprise, elle veut un travail passionnant rapidement, sinon elle va chercher ailleurs. Elle ne veut rien sacrifier à sa qualité de vie. Nous, nous sommes les vieux de la génération qui a travaillé jusqu'à pas d'heure et trop donné à sa boîte. Les vieux qui auraient jamais osé demander à partir plutôt le mardi pour aller à la gym. Les vieux qui se sont tapés d'abord le sale boulot pas très valorisant, ici en l'occurrence les reportages sur les bouchons du chassé-croisé ou les achats de Noël. Et on trouvait tout ça normal. C'est peut-être là le problème. Du coup, la génération qui arrive maintenant, on la trouve peu investie, peu respectueuse de l'autorité, incapable même d'envisager le long terme. Et croyez-moi, elle nous le rend bien. Mais la Z, c'est aussi celle qui nous a envoyé nous faire déconstruire ailleurs, qui nous a appris à décontracter littéralement nos visions trop binaires de la société. Nous, au 18-20, la Gen, on l'a, elle s'appelle Julie, par exemple, la Z, ben, qui est en stage, et croyez-moi, c'est pas de la tarte. Alors, est-ce que nous sommes en train de tourner vieux con ? Est-ce que la génération Z, elle, a tendance à trop s'écouter ? Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de choses au milieu de tout ça. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Stéphane, bonsoir. Vous êtes le premier, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Stéphane ?
Oui, alors moi j'ai 58 ans, je suis en fin de carrière, 25 ans dans un bureau d'études, commercial, directeur commercial pendant 16 ans, et juste avant le Covid, avec joie, un poste de directeur général. Donc on s'est remis en question avec cette génération Z, on a fait des formations, on a donné un sens à notre projet d'entreprise, on a fait des réseaux sociaux internes, on a fait des after-work, ben, il en ressort qu'on a du turnover quand même, avec des départs précipités, surtout après le Covid, des idéaux vers lesquels on va en laissant tomber effectivement les engagements qu'on avait pris lors de l'embauche. Alors ça nous a assez surpris, on essaye de lutter, mais surtout on se retrouve peu par rapport à notre parcours. Moi j'ai beaucoup donné, trop donné, j'ai divorcé bien sûr, et on se dit oui,
bien sûr,
oui, bien sûr, parce que j'ai plein d'amis comme ça, et on se dit quand on se retrouve à faire un regard un petit peu arrière sur nos carrières, est-ce qu'ils n'ont pas en partie raison. Et alors un double témoignage, parce que je suis père et beau-père aussi, j'ai oublié de le dire, mais père, et j'ai une fille de 30 ans qui n'a jamais travaillé. Elle a 4 enfants, elle les élève à la maison, elle leur fait l'école à la maison, et elle ne souhaite pas engager une carrière professionnelle. Et puis j'ai un fils, lui il a 29 ans, ils ont 13 mois d'écart, il travaille une semaine, après il est tranquille, il profite un peu de ses droits sûrement, il vivote autrement, il vit chez ses grands-parents maternels, et ma foi ça lui va bien. Donc du coup on est un petit peu perdu, alors on continue, on est braves soldats, on va aller jusqu'au bout, hein. Mais c'est vrai qu'on est un peu bousculé, je crois, nous un peu les anciens, j'aime pas le terme vieux con, mais les anciens, parce que du coup, et pourtant on profite, moi j'ai des belles voitures, je bouffe la vie, je consomme extrêmement.
Aïe, 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 vous avez prononcé le mot voiture.
Mais je suis has-been, mais je suis has-been, et on voit bien qu'on se comprend plus, ou si on se comprend c'est difficilement,
mais
avec beaucoup d'efforts.
Stéphane, alors à votre fils peut-être, ou aux jeunes gens que vous avez essayé de garder dans votre entreprise, vous avez parlé de l'afterwork, d'un réseau social interne, etc. Quand ils vous disent « je m'en vais, je vais chercher ailleurs », d'abord, est-ce que vous cherchez à les retenir ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vous disent en partant, en fait ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ma vie, c'est pas 8 heures. 8 heures, je ne parle pas de 15 heures, c'est pas 8 heures au boulot. Moi, j'espère qu'il ne va pas se reconnaître, et s'il se reconnaît, je t'aime quand même. Mais j'ai un directeur commercial, le midi, il fait du sport, il tient à porter sa fille le matin, là où moi, je partais toute la semaine. C'est un bureau d'études qui a un rayonnement national, hein, et j'allais faire du coaching, du training avec mes commerciaux, pour qu'ils me suivent, et qu'on aille bouffer des parts de marché. On est dans une vision où, effectivement, la qualité de vie, la famille, peut-être qu'on a sacrifié nous, retrouve peut-être une juste place. Voilà, peut-être.
Merci beaucoup Stéphane, vous avez fait vraiment très largement le tour du sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a à la fois votre interrogation, votre difficulté à comprendre, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, aussi l'idée que on en a fait beaucoup trop pour aller bouffer des parts de marché, comme il le dit lui-même, pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table. Il y a Claire Toury, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente du mouvement associatif, vous en voyez passer, vous travaillez beaucoup avec des générations Z, il y a Élodie Gentina aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'ISSEC, c'est une école de management, et vous avez notamment écrit « Manager la génération Z » aux éditions d'Uno, c'était il y a très peu de temps, en 2023. Bah, du coup, spontanément, c'est vers vous que j'ai envie de me tourner, Élodie Gentina. J'imagine que des gens comme Stéphane, dans des entreprises, aux prises, au fond, à cette confrontation entre la génération d'avant et la génération Z, vous en avez croisé plus d'un, et que ce schéma-là, celui de Stéphane, vous l'avez croisé bien des fois.
Oui, bien entendu, en fait, hein, moi je suis aussi conférencière en entreprise, donc forcément je rencontre beaucoup de managers, de dirigeants, de secteurs différents, hein, et on voit quand on écoute Stéphane qu'on n'est pas sur une confrontation, hein, on est vraiment aussi plus sur une
incompréhension.
Voilà, et un besoin d'éclairage en fait sur cette génération-là. Et ce qui est intéressant d'entendre, c'est le nouveau rapport au travail. Alors je tiens quand même à redire, quand on parle aussi, voilà, parfois, cette génération, il y a un autre rapport au travail. Quand on parle de la réforme des 35 heures, c'est pas les Z, hein, qui l'ont inventé. Hein.
Ouais, donc, ouais,
voilà,
absolument.
On est pas associé aux autres générations. Ouais. Voilà, il y a tout un héritage, hein, par rapport à ça. Mais c'est clair qu'il y a un autre rapport au travail et surtout un autre rapport à l'engagement. Quand on écoute Stéphane, on voit que le rapport au travail, hein, avant, c'était un rapport qui était rationnel, qui était affectif, qui était normatif. Travailler était une norme, c'était une obligation morale de rester membre d'une organisation. L'engagement, il était rationnel et calculé. On cherchait la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, on voit que la fidélité est complètement différente. Elle s'inscrit sur d'autres dimensions. Aujourd'hui, les jeunes, ils attachent beaucoup d'importance à l'esprit d'équipe. Ils sont d'ailleurs plus fidèles à leur équipe qu'à l'entreprise. Ils ont une volonté de vivre une vraie expérience. Voilà, dans l'entreprise, ils ont une volonté d'être acteurs, c'est ce qu'on parle de fidélité intrapreneuriale.
Oui, mais pardon, Élodie Gentina, nous aussi on l'avait, et Stéphane qui nous a appelé aussi, mais pas forcément tout de suite en fait. Est-ce qu'on était plus patient que la génération Z est patiente aujourd'hui ?
Bien sûr, alors là on est sur un autre sujet, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps est complètement différent, la vision du temps est complètement différente. Pour les anciennes générations, il y avait un temps qui était linéaire. Voilà, on avait un temps qui était linéaire, le mariage, d'ailleurs il l'a dit, hein, ma voiture, le statut qui permettait d'accéder à un statut, on cherchait à gravir les échelons dans l'entreprise, on parlait de plan de carrière. Aujourd'hui, les jeunes vivent l'instant présent. Pourquoi ? Parce qu'il y a on est face aussi à la quatrième révolution numérique, ils sont sans cesse avec leur téléphone portable, leur iPhone, hein, comme si l'iPhone était un peu une extension d'eux-mêmes. Et donc, on est passé d'un temps linéaire à un temps circulaire. Mmh. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de rite de passage. Et donc, on est dans une culture de l'expérimentation où on va accepter les allers-retours. Mmh. Donc, ils vivent l'instant présent. Parfois, ils voient un peu dans les valeurs du passé et ils ont beaucoup de mal à se projeter à plus de 6 mois. Mmh. Et d'ailleurs, ils sont un peu inquiets quand on parle de leur avenir. Et c'est pourquoi ils ont du mal à se projeter.
Alors, on va y revenir, effectivement, aux allers-retours, au temps de plus de 6 mois. Claire Toury, vous qui êtes dans le mouvement associatif, justement, est-ce que vous avez l'impression d'être dans l'entre-deux, c'est-à-dire peut-être le passage qu'on fait entre deux boulots, ou avant un boulot, ou en imaginant qu'on attend autre chose, donc on va dans le secteur associatif, on va chercher autre chose qui nous implique différemment. Est-ce que vous avez l'impression de vous mettre dans ces interstices-là ?
Non, alors pour le coup, on est dans le monde associatif, on s'y engage, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, il y a des trajectoires d'engagement qui sont pas toujours les mêmes, mais qui sont bien là. Mais peut-être juste avant de vous répondre là-dessus, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'engagement des jeunes, hein, ça a été l'objet de ma recherche aussi à un moment. Et ce que vous disiez sur, pour commencer, ils respectent pas l'autorité, etc. Juste qu'il faut qu'on le remette dans le contexte, ça a toujours été comme ça. On a toujours entendu
ça. Vous voulez dire toute génération de jeunes,
Vous lisez Platon et vous entendez dans la bouche de Socrate que les jeunes ne respectent pas l'autorité. Vous lisez Agatha Christie, vous lisez Stefan Zweig, peu importe, à chaque fois on entend ça. Et pourquoi ? Et c'est ça qui est intéressant peut-être de se demander, c'est pourquoi ? Parce que la jeunesse est la seule catégorie sociale mouvante par laquelle on passe tous et de laquelle on sort tous. Et pour cette raison précisément, on se permet à l'égard de cette catégorie d'âge tout un tas de caractéristiques qu'on se permettrait à l'égard d'aucune autre parce qu'on est passé par là et qu'on sait que ça va finir par passer pour eux.
Mais je me demande demandais quand même si, et on en, parce qu'on en parle tellement de cette génération Z, parce qu'elle nous a redéfini une partie du monde de l'entreprise, parce qu'elle nous a fait réfléchir, et la raison Stéphane et nous tous, à la manière dont nous, on a appréhendé tout ça, parce que c'est elle qui s'est pris le Covid de plein fouet, plus que d'autres, à une période qui est vraiment une période où on souhaite tellement autre chose pour des jeunes gens qui ont 15 ans, qui ont 20 ans. Donc il y a vraiment tout ça qui a joué. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas cru que le gap entre leurs parents et eux était au fond le moins violent que les précédents. Enfin, on va pas caricaturer, mais on s'échange les jeans aujourd'hui entre une mère et une fille. C'était pas le cas entre les 68 arts et leurs parents, par
exemple. Mais c'est en partie vrai ce que vous dites. Si on regarde les enquêtes valeurs, c'est intéressant, les enquêtes valeurs, elles montrent qu'on n'a jamais été aussi proche en termes de valeurs entre les générations.
C'est ça, on peut écouter la même musique, par exemple.
On peut écouter la même musique, on est hyper proche de sa famille quand ça se passe bien.
Exactement.
La famille qui était pendant longtemps une institution contestée est devenue une valeur refuge. Ça empêche pas. Mais par contre, ce que vous dites aussi est juste, c'est une génération, il y a la question du Covid, mais il y a la question de la crise écologique. Enfin, je discutais avec un jeune il y a quelques temps qui me posait des questions dans le cadre d'un devoir et je me disais, mais alors attends, il a 16 ans, 17 ans, lui il a connu le Brexit, Trump, puis de nouveau Trump, enfin ça c'était après, et puis la guerre en Ukraine et le Covid, etc., etc., etc. Et en fait, il grandit dans un monde qui est ponctué par des crises, avec une crise qui est quand même assez majeure, qui est la crise écologique, et il y a une différence notable entre grandir dans un monde comme ça et se structurer politiquement dans un monde comme ça et vieillir dans un monde comme celui-là. C'est pas tout à fait pareil.
Il y a un sentiment d'urgence, donc peut-être dans un cas effectivement qui n'existe pas dans l'autre. Je vous ai entendu réagir, Élodie Gentilien, puis on retourne au standard. Allez-y, Élodie.
Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses, mais quand on parle du rapport à l'autorité, forcément, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, comme elle le disait, Platon, Socrate en parlaient déjà. Mais ce qui est propre à cette génération-là, c'est qu'en fait, ils remettent en cause l'ancienneté et l'expérience des anciens, puisque comme ils sont sans cesse avec leur téléphone, il y a une remise en cause plutôt, moi je dirais, de la crédibilité des porteurs de l'autorité. Et ça, c'est propre à la société d'aujourd'hui. Je m'explique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autorité, on en a toujours besoin. Ils ont besoin de règles, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de feedback. Mais on va passer d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Et donc, ils vont attendre d'un chef, pas un chef, mais voilà, un manager qui soit bienveillant, qui soit empathique. Moi-même, ma posture de professeur, ça a changé. Hein. Avant, on était professeur sachant. Aujourd'hui, on est professeur coach. Donc, on voit que l'autorité y est toujours. Ils y attendent toujours. Mais en fait, ça a changé.
Michel est avec nous. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir, Fabienne.
On vous écoute, Michel.
D'abord, je vais vous remercier pour votre spontanéité. J'ai l'impression de parler à une vieille copine.
Ah ben, écoutez, pourquoi vous dites vieille? Vous n'êtes pas aimable, Michel, enfin. Merci, ça me fait plaisir. Oh, arrêtez. Ça me fait plaisir. Allez-y.
Je vais dire plutôt vieille rabat-joie.
Allez-y.
Donc, je vous explique un petit peu l'anecdote qui m'est arrivée. Ma fille, qui a 28 ans, a appris en novembre qu'elle allait perdre son travail parce que la société fermait. Donc, tout de suite, je l'ai appelée. Moi, j'ai 68 ans. Donc
panique pour vous, Michel, en fait.
Comment ?
Panique pour vous, en fait, c'est ça ?
Oui, panique pour moi. Tout de suite, je lui ai dit, bon, alors tu vas chercher, tu as commencé à chercher, tu vas chercher quoi ? Enfin, voilà, je déployais toute l'armure nécessaire pour rebondir. Et là, elle m'a presque coupé la parole en me disant, oh là là, mais attends, moi, je vais d'abord prendre du temps pour moi, je vais me reposer. Alors, je dis, mais attends, 28 ans, tu vas
t'es déjà fatiguée ?
Reposer de quoi ? Donc, j'ai pas très bien compris. Et j'ai dit une phrase assassine, apparemment, parce que je lui ai dit, si tu dis ça, j'ai raté ton éducation. Et là, elle a reçu ça, mais vraiment comme une gifle. Mais t'es violente, c'est quand même très fort ce que tu dis. Bon, alors j'ai appelé son frère, qui a 2 ans de plus. Je lui ai dit, tu te rends compte, voilà ce que me dit ta sœur. Et là, il m'a dit, mais maman, moi, tous mes potes qui ont 30 ans, ils sont comme elle. Oui, non, mais maintenant, on est comme ça. Le boulot, c'est pas la priorité. Bien sûr qu'on aime bien faire un job qui nous plaît, mais il y a d'autres choses aussi à faire à côté. Et, voilà, on a d'autres projets, voyager, faire de la musique, et puis on se remettra à travailler quand on en aura envie.
Merci, voilà. Michel, pour ce témoignage. Je vous embrasse, Michel, ma vieille copine. Claire Toury, c'est vrai qu'on entend, on l'entend dire ça, cette génération. On entend surtout que le travail n'est pas une fin, mais un moyen, évidemment, de faire autre chose. Comment vous le reconnaissez, ça ? Après, on demande à notre amie qui travaille avec des entreprises, qu'elle en pense.
Déjà, en fait, ce qui est intéressant dans tous les témoignages, c'est que la réussite, elle prend pas la même forme. Réussir sa vie, c'est plus simplement avoir un job super, être hyper haut dans la hiérarchie et gagner beaucoup d'argent. Par contre, la question du salaire revient quand même.
Bien sûr,
faut pas le nier. Mais et la question du travail n'est pas non plus complètement disparue de la vie des plus jeunes. Mais par contre, la réussite, elle prend tout un tas de formes. Et moi, pour moi, c'est un peu une conséquence d'un système éducatif qui est tellement linéaire, tellement rigide, tellement anxiogène, qui donne l'impression que quand on aura fait son master, etc., on rentrera dans la vie active et que tout sera simple parce que on a bossé, qu'on a fait ce qu'il fallait comme il le fallait. Et puis quand on arrive, on se dit, en fait, c'est ça la vie. C'est ça. Bah, en fait, non, c'est pas seulement ça. La vie, c'est aussi s'engager, c'est aussi rencontrer d'autres personnes, c'est aussi découvrir le monde, c'est relativiser aussi l'importance de semaines complètement dingues. Vous avez parlé de la crise sanitaire. Elle a remis plein de choses en perspective pour les jeunes et pour les moins jeunes. Il y a plein de gens, après la crise sanitaire, qui se sont rendus compte qu'il y avait un côté parfois un peu absurde à rester enfermé dans un système de réussite qui était unique et linéaire. Donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant, mais c'est vrai que ce qu'on entend, on l'entend souvent, et on l'entend même chez les plus vieux. Moi, je connais pas mal j'ai pas mal d'exemples en tête de gens qui arrivent à 40 ans et qui se disent, mais je vais me reconvertir. En fait, cette vie de bureau, elle me convient pas. J'ai envie de devenir fleuriste, fromager, caviste, etc., je ne sais quoi.
Beaucoup de téléphones sonnent autour de ces reconversions, effectivement, de gens. Alors, après le Covid, ou même avant, d'ailleurs, il y avait déjà cette tendance. Mais Élodie Giantina, moi, ce que je trouve assez fascinant, en fait, c'est que moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une forme de contradiction. On veut qu'il y ait du sens dans la société dans laquelle on travaille, mais on s'en va vite. Pour moi, c'est un peu contradictoire, en fait, parce que c'est en s'investissant à l'intérieur de la boîte que, justement, on donne du sens à ce qu'on fait. Ou alors, je dis ça juste parce que moi, j'ai la chance de travailler dans une boîte au service public où on a cette envie-là, si vous voulez. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de contradiction ?
Non, pas forcément, parce qu'en fait, justement, quand on trouve le sens et quand on s'épanouit dans le travail, normalement, il n'y a pas de raison de partir. Et en fait, on peut reposer même la question de la fidélité. Est-ce que ça vaut encore le coup, justement, de fidéliser quand on voit même ces jeunes qu'on appelle des boomerangs qui sont prêts à partir et qui sont prêts même aujourd'hui à revenir, hein. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on appelle, hein. On parle de onboarding, de offboarding et de re-onboarding. Mais en tout cas, cette recherche de sens, c'est propre à la nouvelle génération, mais c'est aussi beaucoup quelque chose qu'on retrouve chez les seniors, chez les 30, 40 ans, et c'est vraiment quelque chose d'intergénérationnel. Aujourd'hui, c'est pas la fin du travail, c'est un autre rapport au travail. Le travail n'est plus un...
Mais est-ce que ça veut dire...
C'est un moyen de...
Élodie Giantina, est-ce que ça veut dire que quand on est chef d'entreprise, par exemple, il faut se sortir de la tête ce que nous disait Stéphane, c'est-à-dire nous, on a investi sur ces jeunes-là, on les a formés, puis voilà qu'ils s'en vont. Est-ce que ça veut dire que pour la comprendre correctement, il faut se dire « je sais que cette personne que j'embauche va partir ». Donc, je l'ai aussi intégrée, je sais qu'il faudra en reformer une autre. Et que tant qu'on n'intègre pas ça, effectivement, on va tomber de sa chaise à chaque fois qu'un jeune partira.
Exactement, il y a énormément de choses à intégrer et c'est clair qu'un jeune aujourd'hui, quand on lui pose la question, même en entretien de recrutement, mais comment tu le vois dans 5 ans ? C'est la fameuse question qu'on posait, mais tout le temps. Quoi.
Ouais, c'est terrible.
Aujourd'hui, un jeune va vous répondre, mais je ne sais pas si dans 5 ans, je serai toujours chez vous. Je le serai si je suis heureux, épanoui, si ça se passe bien, mais je ne peux pas parce que je ne sais pas me projeter. Et donc en fait, si on ne comprend pas cette génération, on peut se dire, ok, en fait, bah, le jeune n'a pas envie de s'investir puisqu'il est incapable de répondre à cette question, il ne sait pas se projeter en termes d'objectifs de carrière, etc. Mais c'est qu'en fait, il vit à l'instant T, il vit à l'instant présent. Et donc, et cette crise de la Covid-19, c'est clair, hein, la crise sanitaire et toutes les épreuves, voilà, que les jeunes ont pu vivre, sont venues accélérer tous ces questionnements liés aussi à la recherche de sens, à ce besoin d'avoir une activité qui a du sens, à ce besoin d'avoir une activité qui correspond à leurs valeurs, le fait de vouloir développer leur potentiel. Voilà, donc il y a une nouvelle place accordée au travail en France, et ça c'est vrai pour tous les Français, pas uniquement pour les jeunes.
Muriel, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Muriel.
Oui, bah à propos de travail qui ait du sens, moi ce qui me gêne un peu dans l'attitude de cette génération, c'est que finalement, eux, ils veulent un travail qui ait du sens, ils sont pas prêts à s'investir plus que nécessaire, et pourquoi pas, mais par contre, ils attendent et ils ont une exigence envers les autres qui est bien plus importante que ce que nous, on pouvait avoir, et en particulier les livraisons, le service, avoir un rendez-vous tout de suite, le site qui va leur livrer dans les 24 heures ce dont ils ont besoin, avec en plus cette habitude de noter, de noter le service, le hamburger qui n'est pas arrivé à temps, etc. Donc il y a quand même un sacré décalage entre moi, ma vie, mon sens et les esclaves qui doivent travailler autour de moi.
Merci Muriel pour cette remarque. Claire Toury, est-ce que dans l'urgence il y a ça? Il y a aussi l'idée, aujourd'hui on vit dans une société de services effectivement quasi immédiats, ils sont aussi nés avec.
Ouais, mais ça c'est intéressant parce que c'est aussi plein de contradictions.
Mais totalement, parce que je pense à celui qui leur apporte en fait, ce qu'ils vont manger ou quoi que ce soit.
Oui, bah alors il y a effectivement...
Qui peut avoir le même âge et qui se pose pas les mêmes questions.
Il y a effectivement la question de celles et ceux qui leur apportent vite quelque chose dans des conditions qui sont quand même assez problématiques.
Exactement.
Mais il y a aussi la contradiction de la génération elle-même dans l'urgence. Alors, on parlait de la crise écologique tout à l'heure, ça bouleverse considérablement les manières de s'engager des très jeunes.
Et c'est vrai que ça bouleverse, Claire Toury, mais nous, on s'est posé la question en préparant cette émission. La dernière manif climat, par exemple, on a eu un mal fou à en retrouver la date. Les dernières actions de ce genre, on a l'impression que, y compris chez cette génération, le moment qu'on est en train, politique qu'on est en train de traverser, et je ne parle pas de nous, mais du monde entier en ce moment, de l'Europe entière et ailleurs, a fait reculer l'écologie d'une case, et c'est quasiment objectif ce que je suis en train de dire, mais eux aussi, en fait, génération aussi.
Je ne sais pas, je pense que c'est un peu trop tôt pour dire ce qu'il en est pour cette génération. Ce qui est sûr, c'est que toutes les enquêtes montrent que l'écologie, elle est en train de baisser dans les préoccupations des Françaises, des Français et au-delà, et c'est un problème parce qu'on n'a pas réglé le problème écologique. Donc ça, c'est un vrai sujet, et du coup, mais je ne sais pas si c'est le sujet, mais enfin de ce soir. Mais par contre, dans la manière dont ils s'engagent, dans leur rapport, dans la manière de se mobiliser, de s'organiser, dans leurs attentes vis-à-vis du politique, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des collectifs. Je parle notamment des très très jeunes. Je pense à ceux qui ont entre 16 et 25 ans aujourd'hui, pas forcément ceux qui sont sur le marché du travail déjà. Ce qu'ils attendent, c'est un changement assez radical de société. Et ils l'attendent tout de suite maintenant. Et c'est là où, en fait, on est dans une contradiction et dans des paradoxes, et en même temps, dans une urgence d'agir n'autorise pas, voilà, on n'a pas de temps à perdre, en fait. C'est maintenant que ça se passe, et si on ne le fait pas tout de suite, ça aura des conséquences assez graves et problématiques très vite.
Après, toute génération a ses contradictions.
Absolument.
On jette la pierre à personne, mais effectivement, vous avez raison, il y a cette image-là, très impliquée dans l'écologie, qui est même actif dans l'écologie. Puis vous savez ce que c'est, l'autre image, c'est qui sont les premiers acheteurs du site Shein, par exemple, qui fait venir des t-shirts à 2 euros qui arrivent de l'autre bout de la planète. C'est la même génération.
Oui. Mais c'est comme nous. Enfin,
personne n'est exempt de reproche.
Non, mais la façon dont on parle de cette génération, c'est un peu pareil. On a un côté fascination-répulsion, quoi. Parce que ça nous interroge aussi, nous, dans notre manière de consommer, notre manière de pratiquer, notre manière de nous engager, notre rapport aux autres, au grand combat. Est-ce qu'on est au rendez-vous? Est-ce qu'on l'a été? Est-ce qu'on le sera? Enfin, c'est aussi ça que ça nous dit.
Je vous confie ça à toutes les deux, cette remarque d'Aline, parce que je la trouve jolie. L'époque n'est pas évidente. Quand j'étais jeune, nous dit-elle, il y avait Franco, il y avait Pinochet et les autres. Mes parents ont eu 20 ans en 1942. Moi, je suis de la génération qui avait 20 ans en 1989. On a cru que ça y est, c'était fait. La démocratie avait gagné. Et notre environnement joue évidemment énormément sur nos différences et notre approche aussi de la génération d'avant et de ce qu'on veut faire de nos vies.
Oui. Et je pense qu'il faut surtout qu'on soit un peu lucide dans la période dans laquelle on se trouve. Il y a des forces qui sont hyper difficiles, destructrices, face auxquelles il va falloir qu'on s'organise et qu'on se confronte. Et clairement, opposer les générations entre elles, c'est pas du tout la bonne réponse. Ça veut pas dire qu'il faut pas poser des particularités, des caractéristiques, mais il faut surtout pas opposer les générations entre elles.
Ni les opposer, ni jouer aux stéréotypes de l'un et de l'autre. Effectivement, comme je le disais en plaisantant, évidemment, tout le monde l'a compris, les vieux cons contre ceux qui n'ont rien envie de faire. On est en train de parler de cette différence entre la génération Z et les autres. Au téléphone sonne ce soir avec Élodie Gentina, qui est enseignante-chercheuse dans une école de management, avec Claire Toury, qui est présidente du mouvement associatif, et avec vous, Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Olivier.
À toutes. Donc je fais vite. Je suis père d'une fille de 15 et d'une fille de 20 ans. J'ai 51 ans. Et pour faire simple, si on prend Terminator, c'était de la SF pour nous. Aujourd'hui, ça peut passer pour de l'anticipation. Les lectures de mes enfants, les animés, les bouquins, les films sont peuplés de dystopies qui, avant tout, nous, on avait juste Mad Max, quoi, et puis c'est basta cosy. Aujourd'hui, quand vous voyez un monde incertain, il est difficile de dire à nos enfants « baptisez pour le futur » plutôt que de profiter de l'instant présent. Merci. Parce qu'ils ne savent pas pour combien de temps ils en ont. Voilà.
Merci Olivier Clertoury. Est-ce qu'il y a vraiment cette idée-là que de toute façon, on danse sur un volcan ? En fait, est-ce que c'est que j'ai besoin de vivre ma vie ? Ou est-ce que, parce que c'est ce que nous décrit Olivier, et c'est quand même un autre registre, de dire je m'en fous, parce qu'on danse sur un volcan, tout va tomber ?
Peut-être un peu des deux. Moi, je crois qu'il y a surtout... pour moi, ce qui caractérise cette génération et ce qui fait vraiment une grosse différence avec les précédentes, c'est qu'il y a un truc qui est très viscéral. Il y a quelque chose qui est très viscéral, qui est très identitaire, qui est très profond. Quand ils sont hyper pénibles dans des discussions de famille parce qu'ils nous interpellent sur le fait qu'on n'a pas fait assez ci ou pas fait assez ça, et pourquoi on se comporte comme ça, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas éradiqué le patriarcat, et pourquoi est-ce qu'on est aussi mauvais face à la lutte contre la précarité et pour répondre aux enjeux climatiques. C'est pas juste pour être pénible, c'est pas ça la question. C'est une question qui est vraiment, c'est assez viscéral. Et si jamais ils ne se mobilisent pas là-dedans, pour celles et ceux qui en ont conscience notamment, ça crée des problématiques identitaires assez fortes, des ruptures de trajectoire, des problématiques de santé mentale, des phénomènes d'éco-anxiété. Et ça, moi, là où je les comprends, c'est que quand on regarde l'actualité, ou qu'on l'écoute, quand on entend ce qui se passe, quand on voit à quel point c'est dur, en fait, le monde, il est quand même hyper difficile, il est plein d'incertitudes, vous allez me dire qu'il l'a toujours été, mais là, tous les jours, on se lève, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, on ne sait pas ce qu'on va apprendre. Et quand vous êtes bien installé, que vous êtes hyper solide, que vous avez trouvé le job de vos rêves, dans l'entreprise de vos rêves, que votre famille, elle est là, qu'elle est présente, qu'elle est stable, que vous avez du sens, que vous savez que vous allez vous relever, et eh ben ça va, on finit par s'en sortir. Mmh. Mais quand vous avez 20 ans...
Enfin, quand on a tout ça, on se réveille et on sait qu'on était en train de dormir et qu'on rêve.
Mais quand vous avez 20 ans et que vous êtes face à une montagne d'incertitudes, c'est hyper difficile.
Élodie Gentina, je vous entends réagir. Parce que vous êtes à distance, je ne vous vois pas, mais je vous entends réagir et je vous écoute. Ouais. Allez-y.
Par rapport aux incertitudes et aux moments d'angoisse, j'aimerais déjà réagir sur cette première chose. Allez-y. C'est clair qu'aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété. Donc, si on prend le dernier baromètre qui a été mis en œuvre par Veolia auprès de 25 000 personnes, on voit que c'est prégnant encore plus chez les jeunes. On a 35% aujourd'hui des jeunes qui se déclarent anxieux. Il y a un jeune sur trois qui dit « je ne sais pas si demain j'ai encore envie d'avoir des enfants », justement face au monde dans lequel on vit. Et on parle même aussi de nomophobie, la nomobalphobie, la phobie de ne pas avoir à portée de main son téléphone portable. Donc voilà, on parle aujourd'hui de nouvelles formes de dépendance, de nouvelles formes d'addiction, de nouvelles formes d'angoisse. Et tout à l'heure, quand on parlait d'intergénérationnel, c'est-à-dire que ça, c'est aussi en référence à mon dernier bouquin, on ne parle pas de multigénérationnel, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à multiplier les générations, mais ce qui est important, c'est comment on peut faire lien entre les générations. Et dans toutes les conférences que j'ai pu mener, toutes les entreprises que j'ai pu rencontrer, j'ai jamais été face à des conflits générationnels. J'ai plutôt été face à des problèmes de management, des problèmes liés à la personnalité de certaines personnes. Pourquoi ? Et on l'entend un petit peu dans les témoignages, notamment la dernière où les jeunes sont instantanés, etc. On tend beaucoup à avoir des préjugés et des stéréotypes en fait sur les différentes générations. Et c'est ça qu'il faut essayer de... Il faut prendre de la hauteur par rapport à tous les préjugés qu'on peut avoir.
Mais je me demandais justement là-dessus, Élodie Gentina, quand vous avez dans une entreprise deux générations qui se confrontent avec l'un, par exemple, ou l'une qui a jamais réellement compté ses heures pour un tas de raisons, et l'autre qui arrive en disant « alors pour moi, ça va pas se passer comme ça », est-ce que le changement de la part du manager, il est vertueux ? C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde profite des nouveaux apports qu'amène cette nouvelle génération en disant « ben oui, si toi tu veux, je caricature un peu bien sûr, mais partir à 17h pour aller à la gym, tout le monde y aura droit. »
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a quelque chose de vertueux ?
Mais bien sûr, il y a quelque chose de vertueux. Il y a quelque chose de vertueux, le fait de travailler ensemble. On sait bien que 95% des boîtes qui sont sur l'intergénérationnel sont beaucoup plus performantes, plus innovantes. Et donc, on apprend les uns aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne doit plus être dans une socialisation qui est dans un sens. Les seniors apprennent aux plus jeunes. Il faut aussi se rendre compte que les jeunes ont plus de compétences dans le domaine du digital, dans le domaine de la RSE, tout ce qui est écologie, mais aussi social, inclusion, etc. Et dans le domaine des langues. Et ils sont prêts à apprendre aux autres générations. Et donc, comment on peut faire ensemble ? Il faut passer d'un management, je dirais, segmenté, tronçonné par génération, à vraiment une politique RH en entreprise qui est intergénérationnelle, qui est inclusive, qui est facteur de cohésion entre les différentes générations. Et là, il y a plein d'outils qui peuvent être mis en œuvre pour aider à mettre en œuvre ce type de management intergénérationnel en entreprise.
Mathieu est avec nous. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On vous écoute Mathieu.
Je voulais déjà vous remercier pour vos émissions et vous dire, Fabienne, que vous êtes ma voix préférée de la radio. Ceci étant dit, j'enchaîne. Je voulais témoigner parce que déjà, j'entends beaucoup des gens qui ont l'âge de mes parents. Moi, j'ai 27 ans. Je voulais quand même qu'on entende un jeune.
Ah bah, merci.
de la génération Z, mais voilà. Non, je suis peut-être un peu le cliché. J'ai fait 5 ans d'études, je me suis réorienté il n'y a pas longtemps. J'ai changé de métier parce que je trouvais plus de sens là-dedans. Voilà, donc il y a eu un peu cette crise existentielle, je pense, qui est un peu symptomatique de ma génération en tout cas. Et ce que je voulais dire aussi pour peut-être ouvrir le sujet, c'est que je pense que on parlait beaucoup du rapport à l'autorité, du rapport au téléphone aussi. J'ai entendu beaucoup de clichés qui sont parfois vrais. C'est vrai que c'est une génération pleine de paradoxes. Mais pour moi, le cœur du sujet, c'est que c'est le rapport au temps de travail, au-delà d'être le rapport au travail en lui-même. On parle beaucoup de la semaine de 4 jours, etc. Mmh. Et je pense que il va falloir de ce sujet-là, parce que pour moi, la marche du monde, c'est que les gens, pour s'épanouir et à la fois pour être plus productifs au travail, eh ben, je pense qu'ils veulent travailler moins, et ça a expérimenté en ce moment, je crois, dans quelques départements ou dans des collectivités. Et je pense qu'en fait, ça va être inévitable si on veut avoir des salariés et des citoyens heureux. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. Je fais des semaines de 4 jours, alors par la force des choses, mais et je suis content de me lever le matin, et aussi j'ai envie de plus profiter de la vie. Et je pense que ma plus grande peur, c'est de faire du 8h-19h assis dans un bureau pendant 25 ans dans ma vie. Et là, je sais que je peux évoluer, je peux changer de carrière, je peux me réorienter.
Ouais,
et
Mathieu, même moi, j'ai pas envie de faire ça. Je vous le dis, même moi, à mon âge, moi non plus, j'ai pas envie de faire ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Élodie Gentina, il est bien, Mathieu, parce que c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est probablement grâce à cette génération-là et ce dont elle a envie et ce qu'elle apporte que, oui, on réfléchit aux 4 jours par semaine. On n'y aurait absolument pas réfléchi, peut-être un peu avant.
Bien sûr, en France, on a été pendant très longtemps, et encore dans certaines boîtes, bien évidemment, sur la culture du présentéisme, en fait. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est être présent ou être efficace au travail ?
Parce qu'on voulait être bon élève, en fait. On est un pays de bons élèves, de bons élèves, c'est ça l'idée.
Exactement. Ouais. Et on voit aujourd'hui, en fait, que les jeunes ne réclament pas tant la flexibilité au niveau de l'espace. Ils sont heureux d'aller dans l'entreprise, parce qu'ils le disent. L'entreprise est un lieu de sociabilité, de rencontres, d'expérimentation, etc. Mais ils recherchent de la flexibilité au niveau des horaires. On est plus donc à mettre en œuvre un management du care, un management de la confiance. Et on voit même aujourd'hui qu'on est dans un phénomène de slashing. Le slashing, c'est pas un épiphénomène, c'est vraiment quelque chose qui est profond. On a un jeune sur trois qui souhaite cumuler 3 emplois ou plus en tant que freelance. Voilà, et en étant en même temps dépendant d'entreprise. Travailler en entreprise, avoir la possibilité de créer ma boîte ou faire un autre job à côté. Et donc, il y a certaines boîtes qui mettent fin à cette fameuse clause, en fait, d'exclusivité, en fait.
Après, Claire Touris, ce que j'entends dans ce que nous dit Mathieu, c'est, lui, il dit, j'ai eu une sorte de crise existentielle, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, je me suis réorientée, je fais autre chose. Nous, on travaille tous les jours avec un programmateur qui aurait pu être ingénieur, et puis qui, du jour au lendemain, a dit, non, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire, et qui change. Peut-être que la marque de cette génération, c'est d'oser le faire, en fait. Je ne sais pas si notre génération à nous, la mienne, en se trompant dans ses études, se serait dit, merde, je me suis trompée, bon bah tant pis. Et du coup, on sait qu'on va vers quelque chose qui n'est pas le dream job, et on y va quand même.
Ouais, c'est possible. Encore que, on voit, franchement, moi, je vois plein de gens à 40 ans changer de vie.
À 40 ans,
mais le faire tout de suite, peut-être.
Exactement.
Pas. Après, quand même, juste, parce que là, on parle quand même beaucoup de, finalement, d'une jeunesse assez privilégiée qui va trouver un boulot dans, enfin, il y a aussi ça. Je pense que la question du rapport au travail, il y a la question des jeunes et des vieux, puis il y a la question de celles et ceux qui ont la possibilité d'avoir un travail flexible et les autres.
Et qui ont fait des études et donc qui ont un choix et d'autres non, etc.
Après, je trouve que ce que cette génération nous a montré, ce que le Covid a quand même révélé aussi, c'est que pendant longtemps, il y avait un peu ce truc, moi je l'ai fait, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. C'est-à-dire que moi aussi j'ai été étudiant avec pas grand-chose et j'ai mangé des pâtes pendant plusieurs années, il n'y a pas de raison que ce soit pas toi, pas ton cas. Tu n'as pas de prise en amphi, moi c'était pareil, pourquoi pas toi ? J'ai beaucoup bossé pour y arriver, et j'ai pas vu mes gamins pendant plusieurs années, pourquoi pas toi, etc. Et en fait,
nous on se plaignait pas, d'avoir prononcé cette phrase.
Le Covid, je me souviens très bien de cette vidéo où on voyait des étudiants faire la queue pour accéder à des paniers repas. En fait, elle a mis aussi en avant la précarité de cette jeunesse, sa difficulté, les problématiques de santé mentale, les tensions auxquelles elle était confrontée. Et puis, soudainement, on s'est dit, parce que les rapports entre générations ont changé, on s'est dit, on veut pas ça pour nos enfants, on veut pas ça pour nos jeunes. Et donc, on va se mettre en mouvement, on va les écouter, on va essayer de prendre en compte leurs problématiques. Et puis, surtout, on va essayer d'évoluer avec eux, parce que c'est assez intéressant.
Allez, Diane est la dernière qu'on écoute, mais on a du temps pour vous. Diane, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je suis désolée si je m'exprime pas très bien, je suis un peu stressée. Mais alors moi, je voulais juste dire, j'ai 23 ans et du coup, j'ai pas envie qu'on excuse non plus les jeunes de parce que leur santé mentale, parce que leur éco-anxiété, etc. Enfin, moi, je suis la première à être, pareil, je sais pas ce qui va se passer demain avec tout ce qui est écologique, mais d'un autre côté, il faut bien qu'on travaille et il faut pas qu'on se dise non, j'ai pas envie de faire ça. Et c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a aussi un problème de avec les réseaux sociaux, etc., on a l'impression qu'on peut tout avoir. On peut et ne pas travailler et gagner de l'argent. Sauf que non, ça c'est pas possible. Et du coup, faut arrêter de dire les jeunes ils veulent pas travailler. Effectivement, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis 23 ans et je travaille avec des collègues, etc. Et je vois bien que oui, il y a un problème, il y a un décalage. Et même au sein des jeunes, on est beaucoup à vouloir se donner du mal. Mais en fait, on n'est pas forcément bien vu des autres jeunes qui, eux, profitent un peu du système. Et du coup, ça crée un clivage, moi, je trouve.
Diane, merci beaucoup. On ne peut pas tout avoir, Élodie Gentina, nous dit Diane. En fait, quand je l'écoute, je me dis, est-ce que vous avez le sentiment parfois qu'ils s'écoutent, en fait ? C'est aussi une génération qui s'écoute. C'est bien de s'écouter et parfois qui s'écoute trop.
Non, mais moi, ce que j'entends, et elle le dit bien, en fait, hein, arrêtons d'avoir des préjugés, des idées préconçues sur les jeunes. Et c'est là que j'interviens aussi, notamment en entreprise, c'est-à-dire apportons un nouvel éclairage sur la jeunesse. On voit qu'on parle de paradoxe, mais moi je parle aussi surtout de complémentarité. Les jeunes sont vraiment dans le digital et pourtant c'est eux qui ont besoin de liens sociaux et qui sont hyper heureux d'aller en entreprise pour avoir du lien. On dit qu'ils sont hyper slasheurs et zappeurs, mais peut-être qu'il y a une autre forme de fidélité. On dit qu'ils remettent en cause l'autorité, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est peut-être un autre rapport à l'autorité qui est plus une autorité relationnelle et moins de fait. Donc en fait, il faut essayer d'aller un peu, de dépasser tous les clichés qu'on peut avoir. Et notre cerveau fonctionne comme ça. On a des clichés, on prend des autoroutes cognitives qui sont hyper rapides. C'est blanc, c'est noir, c'est solide, c'est liquide en gros. Et il faut vraiment essayer d'avoir une approche qui est beaucoup plus holistique, une approche beaucoup plus globale pour comprendre la jeunesse et toutes ses caractéristiques.
On a Paul excusez-moi de vous avoir interrompu, Élodie Gentina. On a Paul sur WhatsApp qui dit « Je rêvais d'obtenir un titre d'ingénieur et je pensais ne pas en avoir les capacités. Puis j'ai réussi à entrer dans un cycle d'ingénieur en alternance à 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Et finalement, je ne me retrouve plus dans ce cursus. Je trouve les métiers d'ingénieur intéressants, bien sûr, mais je pense revenir à mon métier de chaudronnier qui me passionnait et qui finalement m'offrait tant de liberté, dit-il. Le sens dans le travail, c'est le Graal, nous dit Laurent. Mais est-ce que c'est possible pour tous, travailler 4 jours, c'est top, évidemment, mais et tous ceux qui ne le peuvent pas. Et c'est bien d'avoir ça aussi en tête. Et puis, on a cette remarque que je ne trouve plus, mais que je voulais vous confier, Claire Toury. Je me suis dit que ça allait faire hurler certains de nos auditeurs et qui disaient, oui, mais enfin, s'ils ne veulent pas travailler, comment vont-ils payer nos retraites? Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qui sépare très sérieusement les deux générations, en fait? Nous sommes la génération qui pense que, de toute façon, elle l'aura, sa retraite. Et elle est en train d'être inquiète en se disant, ça se trouve, ce ne sera pas le cas. Et pendant ce temps, les jeunes, ils ne veulent pas travailler.
Alors là, je ne sais pas très bien vous dire, parce que moi, j'avoue que je ne pense pas à la retraite tous les jours, et je travaille, et je suis de moins en moins jeune, donc vous voyez. Mais peut-être que...
Non, mais cette idée qu'on nous dit, ah là là, c'est pas avec ça qu'ils paieront nos retraites. Enfin, c'est quand même
Moi, je suis assez sûre qu'on entendait ça il y a 10 ou 15 ans. Absolument. Honnêtement, il y a un côté un peu répétitif à l'infini. C'est pour ça que je commençais en disant ça, parce que ça fait tout relativiser, ça excuse pas tout, mais ça fait relativiser. Après, moi, ce que je dirais peut-être, c'est écoutons-la, cette génération, écoutons-les. On parle beaucoup d'eux, mais on parle pas souvent avec eux, donc c'est peut-être ça l'enjeu de. Pour mieux se comprendre.
Eh bien, écoutez, écoutons-les, écoutons-nous et recommençons un téléphone sonne. Comme ça, je vous remercie toutes les deux vraiment beaucoup. Merci à tous pour vos nombreux appels.